Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, la télé Full HD Key Life de 40 pouces est à seulement 149 euros.
À ce prix-là, j'ai plus aucune excuse pour ne pas m'acheter cette super télé.
Surtout à 149 euros. Et en plus, elle est garantie 3 ans.
Elle a tout pour me plaire.
Auchan, avec plaisir. 149 euros au lieu de 199, soit 50 euros de remise immédiate sur la télé Key Live. Diagonale écran 100 cm. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 14h02 et on reste ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, l'économiste Pierre Rondeau, la militante féministe et entrepreneur Élise Gottfarb et le journaliste Marianne Perricot. Les gars, dans un instant, on va se poser cette question. La vie à la campagne est-elle devenue un enfer entre les écoles qui ferment, le manque de médecins et les trajets très longs en transport? Eh bien, on se pose évidemment cette question et vous pouvez y répondre au 32-16 et sur l'appli RMC. On aura le rendez-vous des notaires à 14h30. On va parler d'indivision. Vous savez, quand vous possédez un bien à plusieurs et qu'il y a un des frères ou sœurs qui ne veut pas vendre, et ben comment on fait?
Nul ne peut rester en indivision.
Eh bien, écoutez, le notaire nous expliquera ça à 14h30. Et puis les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
Oui, on parlera notamment d'une grève surprise à Orly. Ce sera ce week-end, grève des contrôleurs aériens, les revendications.
Oh, c'est rare, ça, en fait.
Ouais, porte sur les effectifs. Et puis on parlera de Gabriel Attal qui veut la comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans récidivistes.
Avant de les mettre en centre de rétention.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec l'étude du jour et c'est celle publiée par l'Institut Terram qui nous apprend que les jeunes ruraux passent 2h30 par jour dans les transports, c'est-à-dire 42 minutes de plus que les urbains du même âge. Ajoutez à cela le manque de médecins et des écoles qui ferment, on se dit que le bonheur n'est pas forcément dans le pré, Rémi, contrairement à ce que voudraient penser les Français.
Mais selon un sondage IFOP réalisé pour familles rurales, les Français en tout cas continuent d'y rêver. À la campagne, 8 Français sur 10 estiment que vivre à la campagne représente la vie idéale, alors que seuls 19% des personnes interrogées plébiscitent une vie complètement urbaine. La campagne, synonyme, d'après les personnes interrogées, de qualité de vie, de calme, d'un coût de la vie moins élevé ou encore d'un environnement moins pollué. Bon, il y a certes des bémols sur le plan du travail, du dynamisme économique. 46% des Français pensent qu'on s'en sort moins bien en milieu rural. À ce sujet, disparition des services de proximité, pauvreté, chômage sont les termes qui reviennent le plus souvent dans ce cas. Enfin, contrairement à ce qui a pu être lu ou entendu après le confinement et la crise Covid, il n'y a pas eu d'exode massif de la ville vers la campagne ces dernières années. Tout juste un frémissement. Ça, c'est ce que nous dit le dernier recensement opéré par l'INSEE, recensement démographique. Mmh. Au cours de l'année 2021, 770 000 personnes ont déménagé de la ville vers la campagne et 546 000 ont quitté l'espace rural pour la ville.
Alors, la vie à la campagne, est-ce devenu l'enfer? Perricot, les gars, vous qui avez une maison à la campagne.
Donc, sans contester, ce n'est pas la bonne formulation du sujet.
D'accord.
Ce n'est pas la campagne.
Très bien,
c'est quoi? La vie dans le désert est-elle bonne? Ou si on a 2 heures de transport, c'est qu'on ne vit pas à la campagne.
Oui, enfin,
donc voilà.
Si on se dit en France, on est où, à la campagne ou à la ville?
Non,
bon, bah, c'est la campagne.
Non, parce qu'Estelle, comme c'était mieux avant, à un moment donné, vous avez eu la vie à la campagne où on vivait à la campagne de tout, on travaillait à la campagne ou dans la grosse bourgade, pas trop loin, et on avait l'école, le médecin. Donc la République française, le pays fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus la campagne, c'est des zones désertiques où on repousse des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir les tarifs ou les loyers en zone urbaine. Ce sont des urbains, la plupart du temps. Ils sont obligés de faire des trajets épouvantables dans des conditions abominables. Et sur place, ils n'ont plus rien. Donc, de toutes les manières, il faut amener les enfants à l'école loin. Il faut aller faire les courses dans la grande surface. Ça n'est plus la vie à la campagne. C'est la vie directement dans l'enfer. Mais qu'on ne mette pas le mot campagne, vu l'idée que je m'en fais, sur ces zones-là, sur ces camps-là.
C'est vous, par exemple, Perricot, vous avez une maison dans une toute petite ville.
Oui. Je pourrais y vivre. Là, je viens parce que c'est vous qui me demandez de venir.
Ouais.
Je pourrais y vivre toute l'année sans
la
bouger,
question.
Sans problème. Tout.
Oui, mais pourtant, je veux dire, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a...
Tout. Et je connais des territoires pas très loin, dans l'autre département, dans l'Indre, ou dans le Cher, ou dans la Creuse, où effectivement, il y a cette situation. Pas de médecins locaux, pas d'infrastructure, pas de scolarité, voilà, pas de poste, voilà. Mais il y a des déserts aujourd'hui qu'on appelle la campagne. Je suis désolé. Quand on parle des territoires perdus de la République sur le plan sécurité et intégration, c'est vrai. Il y a aussi des territoires de la République qui sont perdus en termes de sociologie, en termes de vie quotidienne et en termes d'emploi.
Pierre Rondeau, je n'ose même pas vous poser cette question parce que je sais que vous, vous êtes très ville, mais est-ce que vous imaginez peut-être un jour pouvoir vivre à la campagne?
Un week-end, pourquoi pas, comme ça.
Oh non, mais arrêtez, mais longtemps,
d'aller comme ça, profiter d'un jardin et d'un air non pollué, pourquoi pas. Vivre là-bas, bien évidemment que non, au quotidien. Pourquoi après, pas. Pour rejoindre Perrico, effectivement, il faut bien distinguer, parce que quand on parle campagne, on va s'imaginer une espèce de lieu-dit coupé du monde au milieu des champs. Il y a des villes moyennes, des petites villes, des villages, si je puis dire, qui ont quasiment tout et qui ont tous les services
mais
possibles.
Mais une ville moyenne, c'est pas la campagne.
D'accord, mais voilà, c'est pour ça que quand on parle pareil d'urbain et de ruraux, on peut vivre à Paris, tout comme on peut vivre à Saint-Malo ou ailleurs, dans une ville de 30 à 40 000 habitants. C'est pas aussi la même catégorie entre une ville comme Lyon,
Marseille. Saint-Malo, c'est pas la campagne.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a
en revanche, il y a 10 kilomètres, il y a vraiment la campagne.
C'est sûr. Ça, on va plus loin.
Ruralité absolue.
Oui. Là, quand on parle de véritable ruralité, il y a aussi un choix qui doit être fait. Il faut aussi l'assumer, le choix. Perrico disait que c'était subi, que des gens, parce qu'ils étaient refloués des villes moyennes, ils devaient, pour vivre, aller ailleurs. Il y a aussi un choix consenti d'aller vivre dans la campagne, telle qu'on l'entend, véritable campagne désertique, où c'est assumé. Et là, j'ai pas à plaindre les gens si c'est véritablement assumé.
Emmanuel Dancourt, il est très heureuse, par exemple.
Par exemple, quand on me dit il faut 2 heures pour aller en ville ou pour aller faire ses études pour les jeunes, oui, mais c'est un choix qui était assumé. Si c'est pas subi, si effectivement on parle de contraintes parce que l'immobilier des villes, grandes villes ou villes moyennes, explose et qu'on n'a plus les moyens de vivre dans ces villes-là, là, effectivement, c'est choquant. Si c'est moi, citadin urbain qui, ayant connu le confinement et le télétravail, constate que je peux travailler de ma campagne dans mon jardin et je vais aller là-bas.
Ils en sont revenus
parce qu'effectivement, il y a plein
de gens. Il y a des gens qui avaient tout, qui n'ont plus rien. Ils ont connu tout et il n'y a plus rien.
Ça, je suis d'accord.
Oui, mais voilà, pour mais il y a campagne des artistes et campagne avec.
Pour moi, la question de la campagne, c'est un problème économique. Et je vais prendre pour ça l'exemple des médecins. Qu'il y en a plus dans les campagnes, c'est que par exemple, en fait, quand tu fais des études de médecine, donc tu fais environ 10 ans d'études, au bout de 10 ans d'études, t'as envie de pratiquer avec des gens qui sont les meilleurs. On va dire que c'est l'objectif. Quand t'es médecin, ou quand t'es n'importe quoi d'ailleurs, hein, tu fais un métier, tu te dis, j'ai envie d'être là où c'est stylé de travailler. Les gens n'ont pas envie d'être dans les campagnes parce que les meilleurs médecins se trouvent dans les agglomérations. D'accord? Donc, pour moi, c'est une question économique. Pourquoi? Parce que en France, on a un problème de délocalisation. On ne délocalise rien. C'est-à-dire que les meilleurs hôpitaux sont à Paris, les meilleurs les ministères sont à Paris, toutes les institutions sont à Paris, tous les sièges des entreprises sont dans les grandes villes. À Paris, il y a juste à Strasbourg qu'il y a le Parlement européen.
Les médias nationaux sont à Paris.
Les médias sont à Paris. Dans les villages. On peut les mettre dans les villes moyennes, mais pas dans les campagnes.
Mais
ça va faire qu'en fait, si t'as un service public ou si t'as une institution qui est mise dans une petite ville, bah t'as un médecin qui va se dire bah ça va, je peux aller pratiquer à 30 km de cette petite ville parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont avoir la même idée, qu'on aura des bons médecins sur place et des bons centres médicaux par exemple. Et il y a aux États-Unis, je sais que je prends l'exemple des États-Unis, mais qui est incomparable avec la France parce que c'est 1000 fois plus grand, mais les sièges sociaux des entreprises et les institutions sont délocalisées. C'est-à-dire que tu vas avoir le siège social de McDonald's à Chicago, tandis que le siège social de Facebook, il est dans la Silicon Valley.
Mais c'est que des grandes villes.
C'est un pays fédéral.
C'est des grandes vallées.
Oui,
c'est des États qui ont une. Si en France, on avait par exemple, je sais pas, le siège de Canal Plus ou de BFM, je sais pas, à Bordeaux.
À Marseille, par exemple,
il y aurait peut-être beaucoup plus de gens qui vivraient dans les villes autour.
Non, parce que ce serait. Non, je suis désolé,
mais. Je pense que c'est sensiblement le même sujet parce qu'en fait, on crée une dynamisation.
Là, on parle de ruralité.
Oui, mais la ruralité, elle dépend de la dynamisation des agglomérations qui sont autour.
Si tu as une grosse ville forte, par exemple, on va dire Limoges, typiquement, c'est une ville moyenne. Si Limoges, il y avait un ministère à Limoges, qui avait Amazon à Limoges, etc., forcément, tu aurais plus de gens qui iraient à côté de Limoges pour se loger parce que déjà, les gens qui bossent pas à Amazon, ils auraient besoin d'un visiteur.
Regarde, c'est le sujet des pharmacies aujourd'hui.
Si Thierry Moreau nous écoute, il pourrait appeler pour témoigner. Thierry Moreau qui vit en Île-de-France, dans un village d'Île-de-France à 60.
C'est la campagne.
C'est la campagne, mais c'est l'Île-de-France. Donc, ta théorie est de dire que si tu mets des ministères ou des sièges sociaux dans une grande ville, il y aura un effet de dilution. Thierry Moreau habite dans une campagne francilienne. Il n'a pas accès à tout ce qu'on dit. Hein. Il n'a pas d'école, pas de médecin, pas de rien. Il n'a rien.
Ok, d'accord.
Donc voilà, mais c'est pas parce que tu mets un ministère à Limoges que tu auras dans toute la périphérie de Limoges.
Après,
il y a peut-être
des exceptions. Moi, par exemple, ce que je vois, c'est que je suis scout depuis que j'ai 7 ans et que chaque été, donc quand on est scout, on fait le tour un peu de la France. Et j'ai vu au fur et à mesure des années l'impossibilité de plus en plus évidente de trouver, par exemple, une pharmacie dans une ville, dans les petits villages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les jeunes qui font leurs études de pharma, ils ont pas envie de rester dans ces petits villages. Ils ont pas envie de rester à la campagne parce qu'il y a rien. Alors que, en fait, si on délocalisait toutes les activités qu'il y a aujourd'hui dans les grandes villes, ça donnerait envie aux gens de se développer un peu ailleurs. Moi, ça me dérangerait pas de vivre ailleurs qu'à Paris si je savais que dans une petite ville, je pouvais avoir le médecin, la pharmacie, pourquoi pas un super taf, et à la fois aussi une vie de campagne.
Alors, on a beaucoup de témoignages sur ce sujet. On a notamment Bruno qui nous appelle d'Auvillers-les-Forges dans les Ardennes, qui est routier. Et Bruno, il a quitté la ville pour la campagne. C'était quand, Bruno ?
Oh, ben, ça fait 7 ans que je suis en campagne.
Ouais. Et alors, comment vous avez pris cette décision, Bruno ?
Déjà, bonjour Estelle, je suis très heureux de vous parler.
Mais moi aussi, Bruno, moi aussi.
Pardon, j'ai pas entendu la question.
J'ai dit moi aussi. Bruno, vous habitiez où avant en ville ?
Alors, je suis natif de Reims, dans la Marne.
Ouais.
Et j'ai vécu longtemps à Reims. Et j'ai été aussi vivre à Montpellier quelques temps.
D'accord.
Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis revenu dans les Ardennes, dans un petit village de 890 habitants.
Et pourquoi ce choix ?
J'en avais marre de la ville. La pollution, le bruit, les agressions, voilà quoi. Là, je suis ici dans ma campagne, personne ne m'emmerde, c'est pas l'expression.
Ouais, j'entends, ouais.
J'ai tout. Moi, mais quand on dit que le médical, il n'y en a pas dans les campagnes, autour de moi, j'ai 4 maisons de la santé.
D'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'est très tendance, les maisons de santé, effectivement, à la campagne, avec des groupements de médecins, et ça marche très bien. Mais la ville vous manque jamais, Bruno ?
Non. Ben, moi, la ville, Charleville-Mézières, elle est à 30 km. Voilà, quoi. Si j'ai besoin d'une grosse course ou un truc spécifique, ben, j'y vais et puis je reviens.
Mais le cinéma, les activités culturelles, tout ça, ça vous manque pas ?
Mais alors, c'est pas parce qu'on est en campagne qu'on peut pas aller au cinéma ?
Oui, mais vous en avez pas dans votre village ?
Ouais.
Ah non, pas dans mon village. Mais bon, on a une voiture, on peut se déplacer pour aller au cinéma ou à un bon restaurant. Même pas en ville, mais des bons restaurants en campagne.
Et la vie coûte moins cher ?
Bah, je sais pas si elle coûte moins cher, mais je dirais que
on dépense
moins. Autant.
On a d'accord. Moins de besoin. On a moins de besoin.
À part le besoin de circuler pour aller travailler.
Attends, ouais, mais on ne paye pas le stationnement.
Oui, ah ben ça c'est sûr. Mais Perico, pourquoi tu dis qu'on a moins de besoin à la campagne ?
Parce que
on peut aussi s'acheter des habits, tu vois.
Non, parce qu'on a une vie apaisée. On consomme ce dont on a besoin. On peut avoir un potager ou quelqu'un qui a des légumes. On a des relations avec le monde agricole plus faciles qu'avec. Et on n'a pas besoin d'aller tout le temps dans une grande surface à remplir le chariot. On peut le faire une fois de temps en temps pour certains biens, comme certains produits d'entretien. Et voilà. On a un rythme de vie, de consommation beaucoup plus apaisé que le consumérisme urbain qui vous pousse. Parce que déjà en ville, on est tenté, on a envie de faire quelque chose. Là, on peut ne serait que faire un tour de
tenté par une offre culturelle plus élevée et plus
mais dire, c'est pas
la tentation.
Mais c'est pas pour ça que tu y vas, après une tentation
consumériste, non, on est en ville et on vit comme tous les autres.
C'est pas vrai, Pierre.
Je reprends les propos de Perico.
Il a raison,
Pierre. En fait, quand t'es en ville, tu ne supportes pas l'ennui. Quand tu es à la campagne, c'est pas un problème, tu te poses. En ville, tu te poses jamais. Tu te dis jamais, tiens, je vais me poser dans mon appart. Non, c'est pas vrai.
Acheter des stress, vous le savez bien, moi. Oui. L'acte d'achat, c'est un acte culturel presque pour nous. Voilà, à la campagne, on a moins besoin de le faire parce qu'on a autre chose, on compense par autre chose.
Un apprentissage de l'ennui en ville.
Et t'es moins dans le paraître. Et t'es moins dans le paraître à la campagne.
Le champ des voitures.
On en est bien d'accord.
Merci beaucoup Bruno. Voilà Bruno qui s'est installé à la campagne et qui ne regrette absolument pas son choix.
Les grandes surfaces sont plus souvent en ville qu'à la campagne. J'ai remarqué l'endroit où on dépense beaucoup.
Pas vrai. Les hypermarchés, c'est la campagne et pas en ville. T'as jamais vu l'hypermarché en ville.
Les boutiques où on va dépenser des jolies choses, c'est plus.
Allez, les petites boutiques, pas à la campagne.
J'ai remarqué que c'était souvent en ville. Mais les boutiques, on dépense beaucoup d'argent.
Mais après, les zones commerciales, elles sont en périphérie. Ouais. Donc, de toute façon.
Pas vraiment à la campagne.
Elles sont jamais où tu parles. On a Julien également avec nous. Julien, qui nous appelle de Casillac dans l'Hérault. Et Julien, il est artisan peintre. Bonjour Julien.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Julien, il y a combien d'habitants dans votre ville ?
Là où je suis actuellement, c'est un bassin, il y a à peu près 5000 habitants.
Oh, c'est quand même, c'est pas la campagne alors.
C'est une bourgade.
L'année prochaine, je déménage dans mon village natal où il y a 50 habitants à l'année. Et encore, je dis 50, je pense que je suis large.
Où est-ce votre village natal?
Le village natal, ça s'appelle Saint-Bresson. C'est à la frontière entre l'Hérault et le Gard.
Et Julien, vous avez une voix très jeune, vous avez quel âge?
J'ai 37 ans.
Et vous avez des enfants, Julien?
J'en ai une de 10 ans et le second est en route, il arrive dans 2 mois.
D'accord, ouais, écoutez, félicitations. Mais vous n'avez pas peur que vos enfants, que la petite de 10 ans, s'ennuie à un moment et que vous ayez besoin surtout de l'amener partout en voiture? Parce que c'est ça le gros problème pour moi, en tout cas à la campagne, c'est d'être obligé de prendre sa voiture en permanence, quoi.
Alors effectivement, oui, c'est le cas, parce que bon, ça sera dans un village où effectivement il n'y a rien, il n'y a aucun commerce. Mais moi, je l'ai fait pendant 14 ans, je me suis habitué. Après, bon, ma femme travaille en ville aussi, donc la ville la plus proche de là où on sera. S'il faut l'amener, effectivement, on sera obligé de prendre la voiture pour la déplacer jusqu'à l'âge où elle pourra prendre un scooter ou quelque chose. Mais non, elle aussi est faite, elle l'a dans l'idée parce que c'est un projet qu'on a déjà depuis 2-3 ans, donc elle est déjà au courant, elle le sait. Et puis voilà, ça va se faire.
La grande ville la plus proche, il y a combien de temps?
La plus grosse, c'est Montpellier, on a une heure de route à peu près.
Ah oui, quand même.
Oui, mais en temps,
oui.
Vous avez des grosses villes un peu plus proches. Alès doit être un petit peu plus proche, ou Clermont-l'Hérault, ou quelque chose comme ça.
Non, pas forcément. La plus proche, c'est vraiment Montpellier. Après, on a des villes voilà, de taille moyenne.
Oui,
Ganges, qui est juste à côté de Cazillac, là où j'habite actuellement, où on trouve tout. Hein. On a des médecins, on a des grandes surfaces. Ouais. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est à un quart d'heure, 20 minutes du village où on sera. Donc c'est pas non plus excessivement loin, sachant que moi je suis artisan, donc je me déplace toujours un petit peu partout. Mm-hmm. Ma femme travaille sur un autre village à côté où c'est bon, un travail fixe, donc elle peut aussi la descendre là-bas.
Vous avez trouvé du boulot en tout cas.
Oui, on a trouvé du boulot. Il y en a, hein. Il faut pas croire que dans les campagnes, il y a jamais de boulot. Quand on cherche vraiment, on en trouve, que ça soit des petits boulots saisonniers, histoire de dépanner, ou même des boulots fixes. Là, l'entreprise, ma femme est en arrêt pour,
elle est
en congé maternité. Il trouve personne pour la remplacer. Et elle a un travail de comptable.
D'accord. Oui, donc
personne pour la remplacer.
C'est ça, on dit il y a pas de boulot à la campagne, mais il y en a. Et puis en plus, maintenant avec le télétravail, mine de rien, on peut facilement trouver.
J'ai regardé ce matin, justement, contrairement aux idées reçues, je l'ai plus devant moi, mais de mémoire, le taux de chômage moyen à la campagne, il est de environ 5-6%. C'est 11%. En milieu urbain.
D'accord. Ah oui, donc il y a moins de chômage à la campagne. Et c'est vrai que ça, c'est contraire à toutes les idées reçues. Julien, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix?
Un choix de vie, tout simplement. Moi, la ville, comme je disais à Thomas au standard tout à l'heure, hein, on me payerait que j'irais pas. Moi, la ville, je supporte pas. Là, on y descend tout à l'heure, justement, pour aller visiter la maternité avant l'accouchement. Mais je descends, je fais ce que j'ai à faire et je remonte. Il y a trop de bruit, trop de monde, trop d'insécurité. Moi, nos petits coins de campagne, on est tranquille, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Il y a pas de bruit, voilà. J'ai les poules en dessous de moi là qui cocottent. Il y a de l'air frais. On est tranquille, on n'est pas opprimé par les klaxons des voitures, tout ça. Enfin, c'est un peu ce que disait votre autre auditeur tout à l'heure, Bruno, je crois qu'il s'appelle. C'est un peu le même principe. Alors oui, effectivement, on a de la route pour arriver en ville et vouloir aller au ciné et tout, aller au docteur, tout ça. Mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie sain pour la famille, sain pour nous aussi. Voilà, on arrive, on déconnecte, on est chez nous, on est. Il y a le calme et la tranquillité.
Eh ben écoutez, je comprends, Julien, et puis bravo à vous sur ce choix de vie, puisqu'il vous rend heureux. Notre invité sur ce débat, c'est Laurent Chalard. Il est géographe, spécialiste des dynamiques démographes en France. Bonjour Laurent.
Bonjour. toujours.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On a quand même l'impression, alors bien sûr, on a des témoignages de deux garçons qui eux sont partis vivre à la campagne et qui sont très heureux, mais on a quand même l'impression, en regardant un petit peu tous les secteurs, que vivre à la campagne aujourd'hui, c'est devenu compliqué. C'est vrai ou c'est faux ?
Plus compliqué qu'il y a 30 ans. Je pense que c'est vraiment l'élément le plus important, parce qu'il y a une trentaine d'années, on avait une politique de l'État qui était favorable aux campagnes. Voilà. À travers la création d'infrastructures routières, autoroutières, à travers, par exemple, le plan Université 2000 qui avait créé des IUT dans les villes moyennes, ce qui permettait aux jeunes des campagnes de faire leurs études dans les villes qui n'étaient pas loin. Vous avez aussi la politique des pays. Je ne sais plus si vous vous rappelez, à un moment, on voulait faire des pays au temps de Pasqua et Dominique Voynet, mais quelque chose qui a complètement disparu. Alors, quand vous regardez aujourd'hui, 30 ans après, dans les années 2000, quelles sont les politiques qu'on mène au niveau des infrastructures? Ce sont les transports en commun dans les grandes métropoles, donc le Grand Paris Express, les lignes de tramway. Mais quand on fait ça, ça veut dire qu'on fait rien dans les campagnes. Attention, c'est important. Au niveau de l'administration, on parle des métropoles, c'est devenu des structures administratives avec de plus en plus de compétences, alors que dans les campagnes, les communautés de communes, elles ont des compétences beaucoup moins importantes et on a tendance à empiéter sur les compétences du département. Et puis, vous avez un désengagement de l'État des services publics, et donc c'est de plus en plus difficile de trouver une poste pas très loin de chez soi, de trouver une maternité pas loin de chez soi, etc. Donc, il y a eu une détérioration de l'offre de services dans les campagnes aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est l'enfer, bien évidemment, parce que les gens qui vivent à la campagne sont habitués à être loin des services, mais ils ont l'impression qu'il y a une détérioration, c'est-à-dire que c'est plus difficile aujourd'hui de vivre sur ces territoires qu'il y a 30 ans.
Est-ce que dans 30 ans, justement, il y aura encore des gens qui vivront à la campagne ?
Oui, bien évidemment, parce que déjà, il y a deux types de campagnes. Vous avez les campagnes vraiment très isolées, loin de toute métropole, et puis les campagnes plus urbaines qui restent très attractives, parce que vous avez beaucoup de gens qui veulent avoir une petite maison à la campagne tout en continuant de travailler à la ville. Donc, de toute façon, dans les campagnes plus urbaines, il y aura encore du monde. La question, c'est plutôt, effectivement, les campagnes isolées, loin de tout, qui sont pas touristiques, parce que dans les zones touristiques, vous aurez toujours des gens qui voudront y aller. Par contre, effectivement, dans les campagnes du Nord-Est qui sont isolées, la situation est un petit peu dramatique, si on pense par exemple au département de la Haute-Marne ou de la Meuse.
Alors, on a parlé de Julien, de Bruno, qui eux sont ravis d'être allés habiter à la campagne, c'est un choix dit. Puis il y a ceux qui sont partis à la campagne, mais qui regrettent un peu. On a Samy, tiens, en ligne, Samy qui nous appelle du Val d'Oise et qui est enseignant. Bonjour Samy.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous faites partie des déçus de la campagne, Samy ?
Alors, de la campagne, comme le disait votre interlocuteur juste avant, de la campagne périurbaine. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu près de Paris.
D'accord.
Et en fait, il y a une douzaine d'années, comme beaucoup de gens, on est dans un appartement, on veut aller vivre dans une maison, dans un lotissement de grande banlieue. Le problème, c'est que moi, j'habite un petit peu entre le cul, entre deux chaises, passez-moi l'expression. Je suis au bout du Val d'Oise, en frontière de l'Oise. Donc, je ne dépends pas de l'offre de transport du Val d'Oise, pas très bien en tout cas, et je pourrais avoir accès à des villes de Picardie du Sud, autour de Chantilly, qui sont parfois mieux desservies en transport que là où je suis, alors que je suis en Île-de-France, mais comme je ne suis pas administrativement dans l'Oise, je n'y ai pas accès.
D'accord.
Alors du coup, si vous voulez, les côtés positifs, j'ai un potager, j'ai un jardin, mes enfants ont fréquenté l'école de village. Il y a une quasi-absence de délinquance. Bon, c'est normal parce qu'il y a aussi moins de gens. Donc, quand il y a moins de monde, il y a moins de problèmes. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, pour le reste, je suis absolument dépendant de ma voiture, moi et mon épouse et moi, pour tout et absolument tout. De pain, je suis obligé de prendre mon véhicule pour aller dans un commerce.
C'est-à-dire que
le moindre commerce est à trois bornes de chez moi.
La boulangerie.
C'est-à-dire que je ne peux rien faire. Et moi, ce que j'avais pas anticipé, c'est l'explosion du coût de l'énergie. Il y a 12 ans. Je ne pensais pas que je fais des trajets moyens de 30 km pour aller travailler, mon épouse également, et je ne pensais pas qu'un jour, le coût de l'énergie me reviendrait plus cher que mon prêt immobilier. Parce que là, actuellement, je paye plus cher pour me déplacer, pour me chauffer, je ne parle même pas de la taxe foncière, que mon prêt immobilier. J'ai fait le calcul, si vous voulez, je mets entre 4 à 500 euros par mois de carburant dans nos deux véhicules.
C'est énorme.
J'ai 300 euros.
Passer à l'électrique, Samy.
Comment ?
Passer à l'électrique.
On en a une des deux qui est électrique, parce que mais l'électrique, c'est pareil, vous savez, j'ai tout calculé. Je suis à 25 centimes le kilowattheure. Si je la recherche chez moi, la voiture, ça va coûter quand même un petit peu d'argent. Je vais gagner, 100 euros par mois. Mais je vous dis, j'ai 400 à 500 euros pour les deux voitures. J'ai 300 euros pour le chauffage et l'électricité. J'ai 2500 euros de taxes foncières. J'ai 12 000 euros de frais incompressibles par an. Et je paye 900 euros par mois de remboursement de prêt immobilier.
Enfin, oui, c'est énorme. On se dit la vie à la campagne, c'est moins cher, mais en fait non, parce qu'avec l'augmentation des prix des carburants et puis aussi chauffer une grande maison à la campagne avec des murs hyper épais, c'est pas hyper
mais
simple.
Mais cette grande maison, on ne l'aurait pas du tout en ville.
Ah ben non, c'est sûr. Et puis au prix du mètre carré.
Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre.
C'est sûr, hein. c'est imbattable. Mais Samy, juste derrière, dernière question rapide. Est-ce que vous envisagez de revenir en ville?
Ah, je voudrais bien, oui. En plus, j'ai mon grand qui va passer en études supérieures.
Ah bah oui,
donc il va avoir des grosses difficultés pour aller à Paris. Enfin, voilà.
Merci beaucoup, Samy, en tout cas, pour ce témoignage. On termine avec des messages, Rémi, et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Allez, ce message d'Étienne qui nous dit « Je vis dans une maison, 3 chambres, 800 mètres carrés de terrain, en Normandie, à 10 minutes de la mer, 890 euros de loyer. Nous sommes tous les deux en CDI, on a même la fibre. » Je peux faire un barbecue quand je veux. On n'a jamais de bouchon pour le même prix. Et il n'a pas tort. Je vivrai dans un studio à Paris et encore, ça dépend où. Jamais de la vie, je ne reviendrai vivre en ville.
Je comprends. Surtout à 10 minutes de la mer. Oui. Il y a des campagnes extraordinaires à côté de la mer.
On est bien.
Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est bien. Mais alors, est-ce que les Français ont envie de vivre à la campagne? On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Non. Ah. Non, pour 55% de ceux qui sont
sur
les réseaux sociaux.
Ah ben c'est non, c'est l'inverse.
Pardon.
La vie à la campagne était devenue un enfer, non.
Oui, mais alors la question que vous posez, c'était pas celle-là, effectivement. Donc c'est le oui, le oui 45% et le non 55%.
Mais non, donc, ce n'est pas un enfer.
Donc
c'est à la marge. Donc la France est coupée en deux.
Oui, voilà. Très belle analyse de Perico Légas. Dans un instant, les notaires, on va parler d'indivision. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème de frères et sœurs, vous voyez, ils ont un bien. Tout le monde veut le vendre, ce bien, sauf un frère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de vendre le bien? Eh bien, écoutez, on en parlera avec notre notaire dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h32 sur RMC, RMC Story. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est le rendez-vous des notaires. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Et les notaires répondent à toutes vos questions le vendredi à 14h30. Et aujourd'hui, nous sommes avec maître Marie-Hélène Perrault, notaire à Chevreuse. Bonjour maître.
Bonjour Estelle.
Alors, vous allez devoir répondre à cette question très intéressante, mais épineuse. C'est Marie-Louise qui nous pose cette question. Elle a 48 ans. Mes trois frères et moi-même sommes en indivision sur la maison de nos parents décédés. Nous souhaitons tous vendre, sauf mon frère Robert. Il a 62 ans. Que pouvons-nous faire ?
Eh ben, je répondrai à Marie-Louise que en fait nul n'est censé rester dans l'indivision, donc bien évidemment à un moment donné tout le monde a le choix de pouvoir en sortir. Il est possible, si son frère ne veut pas vendre, qu'il ait la possibilité d'acheter, parce que son souhait est peut-être aussi de récupérer
la maison.
Si on est dans le cadre d'une succession, c'est que potentiellement on a une opération de liquidation partage, et dans le cadre du partage, on peut, dans ces cas-là, laisser les parts au frère qui veut récupérer le bien et qui ne voulait pas vendre. Mmh. Voilà. On peut aussi décider, et si le frère, par contre, il y a une obstruction, j'allais dire, non fondée à l'opposition de vendre, on a, depuis 2009, dans le Code civil, une nouvelle procédure qui peut être mise en œuvre devant le notaire, et donc en général avec le notaire qui est en charge de la succession. Mmh. Si les propriétaires qui veulent vendre aujourd'hui, qui sont en indivision, représentent plus des deux tiers,
d'accord,
plus des deux tiers des droits indivis, hein, attention, ouais, pas deux tiers des héritiers, deux tiers des droits indivis, ils ont la possibilité d'acter devant le notaire leur intention de vendre leur part. D'accord. Le notaire va dresser un procès-verbal. Il va ensuite notifier aux héritiers opposants la possibilité de faire opposition à ce souhait de vendre de ces deux tiers.
D'accord.
Ils ont 3 mois pour le faire.
D'accord.
Et en général, quand on est dans ce cadre-là, on va avoir l'opposition. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement après ? Eh bien, dans ces cas-là, le notaire constate, au moyen d'un procès-verbal de difficulté, la problématique, et ça passe, et ça part au tribunal, qui peut autoriser ouais, la vente du bien,
d'accord,
hein, judiciairement. Et dans
autoriser
ces cas-là,
ou ordonner ? C'est pas pareil.
Autoriser et ordonner,
d'accord.
Voilà. Mais cette vente qui serait autorisée ne se fera que sous la forme d'une adjudication, c'est-à-dire une vente judiciaire avec une mise à prix, un cahier des charges qui sera rédigé et une mise aux enchères.
Voilà. Mais là, concrètement,
dans souvent, le cas de Marie-Louise, je voudrais rassurer Marie-Louise, c'est que souvent, quand on arrive sur cette, la mise en place de cette procédure, les choses se débloquent.
D'accord.
D'accord. Parce qu'en fait, tout le monde voit aussi son intérêt et se dit que finalement, quel va être mon intérêt si au bout, on arrive à effectivement la vente du bien. Est-ce que j'ai pas intérêt maintenant à m'entendre avec mes frères et sœurs et plutôt que d'être sur une adjudication, trouver un terrain d'entente sur une vente amiable?
Une vente aux enchères, ça rapporte moins qu'une vente classique?
Ça dépend.
D'accord.
Oui, alors là, j'ai déjà été, on m'a déjà posé la question à plusieurs reprises. Ouais. Je vais vous dire, tout dépend. Tout ça, ça dépend de tellement de choses et du lieu de situation du bien et de la nature du bien. Est-ce que c'est un bien rare, pas un bien rare? Oui, est-ce qu'il est situé, etc., etc. Donc, je vais vous dire, tout dépend. Et parfois, beaucoup d'acquéreurs ont l'impression de faire une bonne affaire en adjudication. Et moi, je vous dis que parfois, c'est très bien vendu et mieux vendu que sur le marché.
Là, Marie-Louise, en fait, on sent bien derrière sa question que c'est très tendu. Voilà, aujourd'hui, avec son frère qui ne veut pas vendre. J'imagine que quand on est dans cette situation, il y a quand même de gros risques à se fâcher avec sa famille, quoi.
Quand on arrive là, on est déjà fâché un peu.
Ah oui, d'accord. Oui,
bon, c'est vrai. Et là, sans être...
Oui, c'est vrai.
Donc, ce que je vais vous dire aussi, c'est par rapport à Marie-Louise, qu'il faudrait savoir, c'est la raison de l'opposition. Parce que la raison de l'opposition de son frère peut aussi être justifiée.
Oui. Et c'est pas forcément l'argent.
Cette raison-là, et là, dans ces cas-là, le notaire, là, va avoir un vrai rôle également pour lui dire attention parce que son refus peut être justifié et que même si on allait au bout de cette procédure, le tribunal pourrait et sera en droit de regarder le motif de l'opposition pour dire si oui ou non c'est vraiment un motif réel ou pas. Voilà, donc on peut être dans un cadre particulier avec des opérations de liquidation partage difficile. Voilà, donc il y a ou des problématiques liées à une estimation du bien qui sont d'autres points, mais qui peuvent justifier une opposition.
Merci beaucoup, maître. Et en tout cas, on l'a bien compris, toujours aller voir son notaire pour avoir de bons conseils et savoir comment faire. Mais c'est vrai que cette problématique, elle est vécue par de très nombreux Français, dans le cadre de familles après un héritage.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand même, la loi s'est bien améliorée parce qu'avant, il fallait que de toute façon, vous ayez un accord unanime de tous les indivisaires.
C'est ça, moi, j'étais restée là-dessus.
Oui. Et ben, depuis 2009, c'est changé.
Et ben, merci beaucoup, maître, de nous l'avoir rappelé dans un instant, les immanquables avec Rémi Barré. Mais ça vaut cela, mais 20 000 euros.
Oui, jusqu'à 20 000 euros à gagner aujourd'hui sur RMC. C'est la roue. RMC, l'alerte, elle vient de retentir. Vous avez désormais 5 minutes pour vous inscrire en envoyant le mot roue par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. 5 minutes top chrono à partir de maintenant pour gagner jusqu'à 20 000 euros.
Allez, tout de suite, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater sur RMC avec la comparution du jour, la grève du jour ou encore l'appel et la tension du jour. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Oh, il est 14h42, c'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC. RMC, sorry, voici tout de suite les immanquables de Rémi Barré.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Avec Pierre Rondeau, avec Élise Godfarb et avec Perico Légas. Et on va commencer tout de suite, Rémi, avec la comparution du jour.
Ouais, on va peut-être écouter tout de suite Gabriel Attal, c'était ce matin. J'ai bien filtré peut-être.
Plus tôt, plus vite, et ne pas laisser la situation dégénérer. Ne pas attendre que la situation s'aggrave pour sanctionner. Et je vous annonce donc que nous mettrons en place une forme de comparution immédiate pour les jeunes dès 16 ans. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un jeune de cet âge ne puisse pas être sanctionné immédiatement après les faits.
Gabriel Attal qui donc redit dans un bilan d'étape de ses concertations sur la délinquance des mineurs qu'il souhaite, on vient d'entendre, qu'une loi soit votée avant la fin de l'année pour permettre une comparution immédiate des jeunes à partir de 16 ans, une mesure pourtant décriée par les magistrats. Le Premier ministre avait déjà annoncé le 19 avril dernier une série de mesures pour faire face à l'addiction, à la violence de certains jeunes en appelant à un sursaut d'autorité.
Perico Légas, la comparution immédiate des mineurs de 16 ans, est-ce que c'est une bonne idée pour vous?
On est dans la logique de ce gouvernement. À l'éducation nationale, Gabriel Attal est déjà pour un retour de la rigueur, de l'ordre, du droit. Il a un ministre de l'Intérieur qui est dans cette idée. Oui, on est dans une situation où maintenant, il faut resserrer un petit peu les taux. Et ils sont dans une cohérence et dans une continuité. J'aurais plutôt vu le ministre de l'Intérieur l'annoncer ça que le Premier ministre. Enfin, c'est une décision collective. Donc voilà, l'ordre et le droit reprennent la main dans cette République et ça va dans le bon sens de ce que les Français attendent. On se doute que c'est quand même par rapport aux 33% du Rassemblement national, c'est plutôt une mesure qui va dans le sens de l'autorité.
Après, c'est un peu de la com, hein, parce que des comparutions immédiates, il y en a eu après les émeutes, par exemple. Donc en fait, quand on veut le faire, on peut le faire.
On avait le garde des Sceaux qui était derrière, comme ça, très imposant. Oui, on va voir si ensuite l'État met en place les procédures et les moyens pour aboutir à ça. Parce que la Macronie, c'est beaucoup d'annonces
et
pas toujours le résultat qui va avec.
C'est une mesurette ou une grosse mesure pour vous, Élise Godefarb?
C'est encore une mesurette. C'est exactement ce que vient de dire Perico. C'est que j'ai l'impression, on dit des choses. Est-ce que ça va vraiment arriver? Je suis pas sûre. Et en plus, pourquoi est-ce que d'ailleurs, il y a des contradicteurs? Que disent les contradicteurs? Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on pourrait contredire ces décisions? Et j'ai l'impression que c'est une stratégie, le RN est au top du top, quoi, dans les sondages, et que du coup, Gabriel Attal essaye un peu d'avoir des mesures un peu dures en termes de sécurité.
C'est du symbole, quoi.
Pour aller chercher les gens de droite. Mais.
Ou pas.
En vrai, je ne vois rien s'appliquer. Enfin, tous les jours aux infos, c'est toujours l'insécurité. Donc.
Mais c'est le manque total, encore une fois, de fil conducteur, de philosophie macroniste. Je ne sais pas encore aujourd'hui, après 7 ans au pouvoir, je ne sais pas quelle est la philosophie de la Macronie. Est-ce que c'est de la rigueur, de l'autoritarisme, du laisser-faire? Oui, mais un temps, on a eu une doctrine plutôt propre à celle de François Hollande au début de son mandat en 2017. Maintenant, on dérive, pour des raisons électoralistes, vers une symétrie avec ce que proposa le RN, parce que européenne, parce que 32% pour Jordan Bardella. En l'état actuel des choses, je ne sais pas quel est le fil conducteur et le projet société de la Macronie. Gabriel Attal tient un discours. S'il rencontrait le Gabriel Attal de 2016-2017, il serait profondément choqué.
Il est totalement.
Donc encore une fois, c'est un effet d'annonce. Mais bien évidemment.
Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas? Oui.
Alors déjà, il y a la question de la philosophie politique de la Macronie. Je ne sais pas encore laquelle c'est. De façon très concrète, il y a encore une fois malheureusement une distinction qui est faite entre la conjoncture et la structure. Conjoncturellement, vouloir imposer des comparutions immédiates alors que tu n'as pas cette place de prison. Ok, tu vas condamner. Et après, derrière, tu les mets où?
Il a proposé des maisons.
Des foyers. C'est ce que disait le spécialiste. Des foyers
tout à l'heure. C'est la suite.
Mais ça prend du temps.
Pour répondre à ta question, quel que soit leur bord, les syndicats de magistrats, de toute façon, disent que c'est un pur effet d'annonce.
Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de place.
Et de toute façon, il n'y a pas les moyens.
Mais tu les mets à la campagne, on en a parlé. On disait, tiens, il faut décentraliser.
Mais oui, t'as raison.
Mais des champs avec des clôtures.
Mais bien sûr.
Oui, une espèce de camp.
Il faut tout décentraliser. Bah voilà, commençons par.
Et on ne parle pas de territoire d'outre-mer pour ne vexer personne parce que souvent, ils prennent la bouche. Voilà.
C'est en fait encore une épée dans l'eau, quoi. C'est un effet
d'un. On verra. Attendez.
Il y a quelques temps, c'était Éric Ciotti. Alors, pour le coup, pour pas faire de politique que de critiquer le gouvernement, Éric Ciotti proposait une source d'autorité également à l'égard de la délinquance des jeunes. Et parmi ses propositions, il y avait des courtes peines. Voilà. Que au moins un jeune, quand il fait une bêtise en récidive, il soit condamné à une semaine de prison.
Bah oui. En tout cas, c'est une attente.
Il n'y a pas de place.
Bon.
Mais en tout cas, c'est une attente du pays.
Mais il n'y a pas de place.
Madame Taubira a supprimé 68 000 places de prison.
Il y en a qui sont prêts, mais ça suffira pas.
Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Je te dis simplement, il y a un orage qui arrive, vite, mettons la voiture au garage, il n'y a pas de garage.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est tout.
Oui, effectivement, là, je reconnais.
Laisse tomber. La grève du jour, alors celle-là, on ne l'attendait pas, Rémi.
Oui, c'est une grève des contrôleurs aériens qui va se dérouler ce week-end, à Orly. 70% des vols devraient être annulés. Le conflit porte sur les effectifs. Le ministre des Transports en appelle à la responsabilité des syndicats.
Et c'est vrai que c'est
un syndicat, en fait.
Mais ce qui est hallucinant, c'est d'apprendre du jour au lendemain, en fait, qu'il y a une grève qui va mobiliser, qui va faire annuler 70% des avions. Moi, je pense à ceux qui ont réservé, par exemple, une chambre d'hôtel pour ce week-end. Ils ne pourront jamais être remboursés. C'est impossible.
C'est un week-end du mois de mai. Il y a beaucoup de déplacements. Il y a des gens qui ont peut-être réservé, cassé une tirelire pour aller soit en France, sur la Côte d'Azur, soit dans un pays, Espagne, Italie, pas loin. Chambre non remboursable. C'est dégueulasse. Voilà. Alors, je respecte un peu, comme les cheminots qui te disent on ne peut pas faire autrement. Là, c'est vraiment la prise en otage. avantage le week-end. En plus, au dernier moment, c'est-à-dire que les choses sont pas remboursables. Voilà, c'est honteux pour ces gens-là. C'est honteux.
Ouais, parce que les billets d'avion, ils seront remboursés. Effectivement, les Airbnb ou encore les hôtels ne seront pas remboursés. Et en même temps, c'est le droit de grève.
C'est un droit constitutionnel. Moi, je soutiendrai toujours le droit de grève.
Personne le conteste.
Font la grève à ce moment-là, précisément parce qu'ils savent que ça va être chiant pour tout le monde.
Ils vont punir le gouvernement. Ils ont aucun problème. Les hommes politiques et les responsables de leurs problèmes ne sont absolument pas touchés. C'est le consommateur, c'est les petites gens qui vont être touchés.
Enfin, les petites gens qui prennent l'avion.
Les petites gens qui prennent l'avion le week-end de mai.
Je pense au
Suicard
au supermarché qui
depuis 6 mois, qui amène sa maman au week-end à Marseille.
Il y en a pas vraiment.
Évidemment, ça vous concerne pas. Vous n'êtes pas avec des vélos.
Après, il y a pas. Mais c'est pas besoin de tomber dans des caricatures. D'accord. Pour débattre. Je te rejoins sur l'idée que ça fait chier. Voilà, c'est le mot qu'il faut employer.
Ça dérange, je pense,
c'est l'outil et l'arme de la grève. Mais encore une fois, on peut aussi prendre de la hauteur et se demander comment éviter parce que ça arrive. Quand tu vois qu'on a un seul syndicat qui appelle à la grève, t'as 70% d'avions qui vont rester au sol. Ouais. Un seul
c'est
syndicat.
C'est pour ça qu'il parle de prise d'otage.
J'aime pas ce terme.
Mais
en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un véritable problème en France en ce qui concerne la négociation intrabranche, la négociation syndicale, la représentation syndicale et la syndicalisation en France. Quand tu as en France 8 à 13% de taux de syndicalisation, un pouvoir majoritaire, puisque 70% des avions restaient au sol, pour un syndicat.
Oui, d'accord.
Comme en Allemagne. On peut au court terme, de façon conjoncturelle.
Tu sais à quoi on va aboutir ? Un jour, un gouvernement mettra des jours de restriction.
Non, ce qu'il faudrait, c'est imposer, comme en Scandinavie, comme en Allemagne, la syndicalisation obligatoire.
Non, je ne te parle pas de ça.
Il faut rétablir le dialogue.
Ça, c'est autre chose. Je te dis qu'un jour, tu auras un gouvernement qui imposera des jours de restriction.
Non, bah oui, mais on ira faire
la grève contre ça. On fera la grève contre ça. On changera la constitution sans aucun problème.
Souvenez-vous ce qu'a fait Ronald Reagan en 80.
Non, hors de quoi.
Il a viré 11 000 contrôleurs aériens. Il a dit ils veulent être en grève. Il a viré 11 000. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire.
Protéger notre constitution.
Je n'ai pas envie de citer Ronald Reagan comme référence.
Est-ce que je l'ai cité comme référence? Je te dis juste, il l'a fait à un moment. Et parce que
Margaret Thatcher aussi.
À l'époque, les contrôleurs aériens n'avaient pas le droit de faire grève aux États-Unis. Et en fait, il a dit ils n'ont pas le droit, ils sont dans l'illégalité. S'ils ne reviennent pas au travail demain, je les vire. Et il les a tous virés.
Ah, ça fait un choc à un homme politique qui tient sa parole.
C'était en 80. L'appel du jour, Rémi.
Sortir de la pub maintenant. En marge du Conseil de Paris qui s'est ouvert en début de semaine, plusieurs militants écologistes accompagnés d'élus de la capitale se sont réunis lors d'un happening devant l'hôtel de ville. Leur but, réclamer à Anne Hidalgo la fin des panneaux publicitaires sur les trottoirs de la ville. Les activistes mobilisés contestent l'omniprésence des mobiliers urbains d'information. Cette action intervient alors que le Conseil de Paris doit se prononcer sur le prolongement de 6 mois avant un éventuel renouvellement du contrat qui lie jusqu'à la ville à la société Cities Media qui s'occupe donc de ces panneaux publicitaires.
Élise Godfarb, est-ce qu'il faut mettre fin aux panneaux publicitaires dans les villes et à la campagne d'ailleurs ?
Écoutez, moi si j'étais dans une logique écolo jusqu'au bout, il faudrait au global interdire la publicité si vous voulez dans le monde parce que c'est ça qui pousse à la consommation. Si tu prends une logique écolo, la publicité encourage la consommation, la consommation encourage la pollution. En gros, et la production qui en découle. Pendant les Jeux Olympiques, c'est très compliqué. Pendant les compétitions et tout, c'est très compliqué de demander l'interdiction des panneaux publicitaires dans les villes.
C'est moche. C'est aussi parce que c'est moche.
Arrêtez.
C'est immonde.
Le
mobilier urbain parisien est adapté justement à l'architecture et la colonnes que tu as avec la publicité pour les pièces de théâtre ou pour les films. Mais voilà.
Je te parle des panneaux là horribles rectangulaires.
On va pas non plus vouloir interdire pour des raisons de beauté ou d'esthétisme. Ça permet. Je vous donne un exemple.
Non, c'est pour des raisons écologiques.
Le Vélib, c'est écolo.
Ouais.
Le Vélib, Paris n'a pas payé. Oh, la première version du Vélib, c'était Deco. Deco a simplement, parce qu'il a le droit d'avoir ce marché public de panneaux publicitaires, c'est lui qui a intégralement financé la mise en place du Vélib.
Très bien.
C'est gratuit. Ça sert à ça aussi.
On est obligé de supporter les panneaux publicitaires.
Mais la pub aussi te permet d'éviter à ce que tu aies un surcoût, une surcharge. La pub du métro. Ok, retire la pub du métro.
Ouais.
Ticket à 4 euros, si tu veux, dans ces cas-là. Tu peux mettre le ticket à 7 euros.
Il va être
pendant les Jeux Olympiques.
On a quand même de la chance par rapport à Londres, New York ou Tokyo. Ou quand même, à Tokyo, les pubs te parlent dans la rue. Ouais. Carrément, elle te hurle de
choses. Tu peux aussi baisser les yeux.
Aux États-Unis, t'as pas de panneau publicitaire.
Tu peux baisser les yeux et
New York, t'as pas de panneau publicitaire.
Attention aux voitures. Oui, mais tu n'as pas de panneau publicitaire à New York. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas de.
Va à Times Square.
J'en viens.
Oui, justement.
Non, mais c'est pas. Non, mais attends, tu as des choses lumineuses et évidemment pas écolo du tout. Mais tu n'as pas. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est au milieu d'un trottoir, t'as un panneau publicitaire. Et donc, en fait, tu peux plus passer par le trottoir. C'est le mobilier urbain non adapté. Moi, ça me gêne. Voilà. Et encore une fois, évidemment, après.
Oui, celui-là, c'est sûr que il est pas adapté.
Mais ils sont jamais adaptés. T'as déjà vu des panneaux publicitaires adaptés à Paris? Et je parle pas des colonnes Maurice qui ça sont très belles et qui font partie de l'histoire parisienne.
Bah, aux arrêts de bus.
À la campagne, au moins il y a pas de panneaux publicitaires. Voilà, ça c'est un des avantages.
Bah, t'as raison. Quand t'arrives en périphérie, c'est immonde.
Mais donc c'est plus la campagne.
Sur les routes.
Donc ça n'est plus la campagne.
Alors la définition de la campagne.
Mais Périco, il y a une définition.
Panneaux publicitaires.
Voilà.
Moi je suis pour
les oiseaux.
C'est-à-dire comme ça qu'on l'arrête. Je suis pour l'enlèvement des vieux panneaux.
Le taureau qui est ni, et voilà.
Voilà.
Mais c'est vrai que pour des questions écologiques, c'est assez logique de demander ça.
Bon, en tout cas, il faut que vous parliez dans votre micro, enfin, c'est la fin de l'émission, mais oui. C'est assez logique aussi en radio. Vincent Moscato est là parce que c'est le super Moscato Show. Salut Vincent.
Ça va?
Bah écoute, très bien Vincent, très bien. Elle va très bien.
Le retour des hommes sandwich, ça c'était de la publicité, non?
Ouais, ça c'est pas mal.
Le mec avec les trucs, pour emporter des trucs. Alors, on va parler de sport pendant 3 heures. D'abord, bonjour messieurs, bonjour mademoiselle, monsieur Verrico.
Oui, bonjour.
C'est magnifique. Les payoffs dans le foot. Oui. En deuxième division, ce soir Saint-Étienne-Rodez. Est-ce que vous êtes pour ou contre les play-offs?
Moi, j'adore.
Ça paraît l'accession.
Au début, je voulais pas, et maintenant j'adore.
Parce que j'adore le rugby. Et le rugby, tu sais que c'est
non, c'est pas pour ça, je trouve que ça.
Compris.
Non, mais c'est pas mon sport.
Pas vraiment
favori.
Rugby, c'est pas ton sport.
Mais en vrai, les play-offs, c'est
dire à mon contact, ça devient un peu ton sport.
Oui, c'est vrai.
Un effort quand même, non?
C'est vrai que depuis que tu es là, je.
Très bien. Bon, j'adore le rugby. Finale de la Coupe d'Europe, Toulouse-Leinster. Alors, Leinster, bien sûr, on dit Leinster. On prononce pas comme Gloucester, on dit Gloucester. Moi, sur Duolingo, 392 jours aujourd'hui,
c'est Duolingo.
Comment battre le Leinster? Est-ce qu'on les prend par devant, par derrière?
Le jeu de devant, derrière, bien entendu. Voilà.
Le PSG et Lyon jouent-ils leur saison sur la finale de la Coupe de France? Pas trop le PSG, Lyon.
Non, mais Lyon, ils ont fait une telle remontada durant cette saison.
La remontada.
Mais pourquoi?
Pour Lyon, qui a un budget de 250 millions,
et
la place de 6e, mais pas non plus.
Ils ont été relégués
par rapport à l'historique.
Ils ont été relégués pendant 6 mois.
Ah oui, par rapport au budget, quand même, on peut dire que. Ouais, voilà, alors par rapport au début de la saison, ils ont fait une belle remontada.
Exactement. Écoutez, Estelle Midi revient lundi, midi 15h. Si, sur RMC. Et tout de suite, c'est le Super Moscato Show. Vincent Moscato. Bon week-end à vous.